Le passage principal de ce soir se trouve dans 1 Jean, 1 Jean au chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er, à partir du verset 5. 1 Jean chapitre 1er, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui d'obscurité, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, donc c'est le verset principal, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Parce que mon thème, c'est la communion fraternelle. Et la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes mutuellement en communion. La communion, c'est une relation proche, une relation forte, un échange paisible, un échange d'amour, c'est ça la communion, un travail d'ensemble, une unité dans la pensée, une unité dans l'amour, parce qu'on est en communion, on est unis dans une même logique, on est unis dans une même pensée. Et ce passage nous révèle un élément très important. Pour être bien en communion réellement entre nous, il faut qu'on marche dans la lumière. Nous allons y revenir. Reprenons le psaume, prenons plutôt le psaume 133. Psaume 133. Que la plupart d'entre nous connaissent ce psaume de mémoire, psaume 133, il est écrit ceci. Qu'il est doux, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble unis. Dans la version originale, c'est en hébreu, c'est ensemble unis. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est comme l'huile, c'est la puissance, c'est la vie. C'est comme l'eau, la rosée. Donc quand les frères sont ensemble, il y a comme une rosée et l'Éternel envoie la vie, la bénédiction. Et dans un autre psaume, c'est écrit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Oh, comment son peuple loue? C'est quand il y a parfois une communion fraternelle, un rassemblement. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Et dans Matthieu 20, c'est écrit que là où deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur, il est là. Et lorsque le Seigneur, il est là, c'est comme la rosée sur le mont de l'Hermon. Il y a la vie. Il suffit, quand on est soi-même parent, quand on voit ses enfants unis, on est heureux, on est bien. On est là. Et le travail se fait. Dieu aime la communion de ses enfants parce que c'est ça qui fait, c'est lui-même qui est dedans. Dieu ne mange pas, il ne boit pas, il est esprit. Mais il a des choses qu'il consomme. Il consomme la foi. Quand on a la foi, C'est comme s'il consommait ça, il mangeait ça. Et quand aussi il y a communion fraternelle, il y a louange, c'est comme si Dieu mangeait cela. La Bible dit l'Apocalypse, il est écrit dans Apocalypse 5, il y avait dans la présence de Dieu des coupes. Et aujourd'hui, nous, à l'époque, on utilisait les coupes. Pourquoi? On utilisait les coupes pour boire. Et dans Apocalypse, c'est écrit qu'il y avait des coupes autour de Dieu et ces coupes étaient remplies de parfums. Et ces parfums, c'était les prières des saints, les prières des enfants de Dieu. Nous voyons que Dieu tient vraiment à cette communion. Parce que c'est dans cette communion, c'est comme ça que lui, il est réjoui. Il veut voir ses enfants ensemble, en train d'adorer, en train de travailler, en train d'échanger, de s'exhorter. C'est là que lui, il est reconnu vraiment comme Dieu de ses enfants. Jésus nous a laissé un verset, il nous a dit ceci. Il nous a dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est comme ça que le monde saura que vous êtes de moi. Votre unité, votre communion sera mon prophète auprès du monde. Le monde me connaîtra à travers votre communion. Quand vous êtes en communion, quand vous êtes dans l'unité, quand vous marchez ensemble, d'un même cœur, quand vous travaillez ensemble, le monde verra réellement que j'existe. Qu'est-ce qui est écrit dans Actes 2, 42? Cette fois-ci, on va lire Actes 2, 42. Actes 2, 42. La Bible dit, il est écrit ceci. Ceux qui acceptèrent, on commence à partir du verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Ils étaient là en train de rompre le pain ensemble, de faire les choses ensemble. Ils étaient dans le même lieu en train d'écouter les enseignements. Nous ne voulons pas idolâtrer un lieu, mais nous disons la vérité. La vérité, c'est que Dieu était réjoui de voir le comportement des apôtres et des premiers chrétiens, tels que nous venons de lire cela. Et la Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles. La présence de Dieu était là. Parce que c'est Dieu qui fait les miracles. Aucun homme ne peut faire des miracles. C'est Dieu qui fait à travers les humains. Mais il y a un paramètre très important, c'est la communion fraternelle. Nous avons vécu des temps où on a cherché à connaître l'enseignement le plus, qui va nous donner la plus grande puissance, à prier de la manière où qui nous donnera la plus grande puissance. Mais nous qui avons un certain passé dans le milieu chrétien, nous avons vu que des échecs. Il y a des gens qui ont jeûné 40 jours pour commencer à guérir les paralytiques. Ça n'a pas marché. Il y en a qui ont cherché des enseignements compliqués, croyant qu'ils vont trouver la clé d'une telle délivrance ou de telle guérison. Ils n'en ont pas eu. On a vu tout ça. Il y en a même qui ont cherché à marcher sur les eaux. Mais ça n'a pas marché. Les gens négligent la parole de Dieu. Ils vont prendre un morceau de la parole et ils vont oublier le reste. La Bible dit clairement, ils persévéraient dans la communion fraternelle aussi. La communion fraternelle est un point important de l'action de Dieu. Il n'y a pas que l'enseignement des apôtres, il n'y a pas que les prières, il y a la communion fraternelle, l'unité dans le travail, l'unité d'esprit, l'amour, la considération de l'autre comme étant ton frère. C'est écrit la communion fraternelle. Donc l'acceptation vraiment de l'autre comme étant ton frère, l'acceptation de l'autre comme étant ta sœur, du fond du cœur, c'est ce que Dieu veut. Et c'est un paramètre important de l'action de Dieu. C'est là que Dieu s'affirme être le président de notre équipe. Nous sommes dans le monde, il y a plusieurs équipes. Il y a les équipes du PS, du Parti Socialiste. Il y a l'équipe de l'UMP. Il y a l'équipe du communisme. Il y a l'équipe des pédophiles. Il y a l'équipe des gens qui aiment la télévision. Il y a l'équipe des gens qui aiment l'argent. Il y a plusieurs équipes. Et chacune de ces équipes-là a son Dieu. Il y a l'équipe des gens qui aiment les cheveux. Ils ont leur Dieu. J'ai oublié le shampoing, là, comment ça s'appelle, Jacques Desanges. Tout ce qu'on, chaque équipe a son Dieu, a son président. Marseille, autrefois, c'était Bernard Tapie. Dieu aussi a son équipe. Ce sont ses enfants qui sont censés représenter sa gloire, son honneur. Mais le diable veut nous séparer, nous diviser, casser la communion fraternelle parce qu'il va casser l'équipe de Dieu. Il ne faut pas accepter ça au nom de Jésus-Christ. Nous voulons représenter notre équipe valablement. Et la communion fraternelle est un élément très important. On voit même les gens du rugby de Nouvelle-Zélande. Avant de faire leur match, ils font des trucs bizarres là, des cris inutiles là. Mais parce que ça, c'est leur unité avant le combat. On voit les équipes, les gens qui se mettent le bras sur l'épaule de l'autre, ainsi de suite, en symbole d'unité avant le match. Et aujourd'hui, j'entends des chrétiens à gauche, à droite. Ah, moi, les chrétiens, ils me fatiguent. Mais oui, mais donc tu te fatigues toi-même aussi, alors. Ah oui, mais les chrétiens, c'est trop de problèmes. Ah oui, mais alors, toi, tu es qui? Bien-aimé. Ah, c'est trop de problèmes. Ah, ceci, cela. Ah, moi, il y a des frères que je ne capte pas. Oh, mais. Et toi, qui est-ce qui te capte, toi? Bien-aimé. Ça, c'est le diable. Et on pense que la vie chrétienne, c'est connaître beaucoup d'enseignements et être fort, quoi. Toi, tu es fort, tu es chrétien. Mais la Bible est claire. Là où deux, trois sont réunis, unis en mon nom, je suis là. La Bible est claire. Qu'il est doux, qu'il est agréable. Ah, voici qu'il est agréable. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, unis. Ensemble, unis. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il n'y a pas de place pour les électrons célibataires dans le milieu chrétien. Dieu veut la communion. C'est là qu'il affirme être notre Dieu. Si vous vous aimez les uns les autres, nous devons accepter ça, bien-aimé. Dans nos familles physiques, nous avons des frères et sœurs qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous avons voulu, nous aurions voulu. Mais nous les acceptons comme frères et sœurs. Quand on te dit, tu as combien de frères et sœurs, tu les cites. Parce que tu es né avec eux. Tu ne peux pas changer cela. Mais sache aussi que, étant devenu chrétien, tu as connu la nouvelle naissance. Tu es né avec d'autres frères et sœurs. Puisque tu les retrouveras au ciel. Il faut t'habituer à eux déjà ici sur terre. Il faut accepter la communion fraternelle, bien-aimé. Il faut l'accepter. L'ennemi veut nous mettre en échec en tuant la communion fraternelle. J'entends des gens dire, moi, dans mon entreprise, je ne veux pas embaucher les chrétiens. Après, c'est compliqué. Bien-aimé, quand tu vas dans les prud'hommes, si on te montre les dossiers, c'est les chrétiens dont c'est les dossiers des chrétiens. Les prud'hommes sont remplis de dossiers là-bas. Les tribunaux administratifs sont remplis de dossiers, de contentieux entre patrons et ouvriers. Est-ce que c'est des chrétiens? C'est pas des chrétiens. Pourquoi exagérer comme ça? Bien-aimé, c'est parce qu'on s'est mis dans notre tête, le chrétien, il doit être parfait. Donc, quand il ne doit pas faire d'erreur, il ne doit pas faire ceci. C'est pourquoi nous revenons à 1 Jean 1,7. Nous revenons à 1 Jean 1,7. C'est notre passage principal. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais pourquoi? Quel est le lien entre la communion et la purification des péchés? Jean dit, si nous marchons dans la lumière, eh bien, nous serons, nous tous, en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pourquoi? Nous continuons la suite. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Pourquoi Jean parle du péché en parlant de la communion? Parce que qu'est-ce qui freine la communion? C'est que on reproche à l'autre des choses. Ah, il m'a pas salué. Ah, il m'a pas rendu l'argent au bon moment. Ah, on ne m'a pas donné tel poste. Donc, on reproche des choses aux autres. Alors, c'est pourquoi Jean dit, mais toi-même qui reproches, toi aussi tu pèches, tu ne peux pas casser la communion sous prétexte que les autres sont mauvais. Parce que toi-même aussi, si tu dis que tu n'as pas de péché, si toi, le péché, tu ne pèches pas toi, alors tu fais de Dieu un menteur. Tu devrais te saisir de l'opportunité que Dieu nous donne d'aller demander pardon pour rétablir la relation avec lui, rétablir la communion avec lui. Donc il est écrit, si nous avons péché, eh bien allons demander pardon à Dieu, il va nous purifier par le sang de Jésus et nous serons purs. Alors, ce travail-là que nous avons à faire pour demander pardon, acceptons aussi que les autres le fassent. Parce que ce qui bloque la communion, c'est que on est là à accuser les autres. Et à les cataloguer, à les catégoriser. Ce qui fait qu'après, il y a une barrière qui se crée entre eux et nous. Et le Seigneur dit non. Jean dit non. Il faut comprendre que nous tous, on a la puissance de pécher en nous. Nous tous, on peut pécher encore. Mais Dieu nous a donné la solution, c'est le pardon qu'il peut nous offrir à travers le sang de Jésus-Christ. Donc, il faut qu'on accepte que Dieu peut pardonner à l'autre. C'est important, bien-aimé. Le diable veut nous empêcher de servir le Seigneur. Nous avons vu, bien-aimé, dans Actes 2, 42, il y avait une telle communion. Je ne veux pas m'allonger là-dessus parce qu'on risque de m'accuser de vouloir que les gens vendent leur maison. Mais il y avait une telle communion que l'évangélisation était devenue simple. Les gens regardaient les chrétiens, ils se convertissaient tout seuls. Il n'y avait pas besoin de trop parler. La paix régnait, l'amour régnait, la joie, l'unité, l'équité, la justice régnait tellement au milieu des chrétiens que les autres les respectaient et devenaient chrétiens par la suite. Parce qu'ils voyaient bien que ce à quoi aspire l'humanité, ça se vivait auprès des chrétiens. L'unité, la paix, le partage. Ils disent que ceux qui étaient riches vendaient et donnaient aux pauvres de sorte qu'il n'y avait plus de pauvres. Personne ne manquait. Au fait, c'est ce à quoi aspire tous les systèmes du monde. Quand on dit la retraite par répartition, c'est quoi? Eh bien, ceux qui travaillent, eh bien, vont payer pour ceux qui sont dans la retraite. Donc, il y a une sorte de solidarité. C'est quoi? Même la devise de certains pays, égalité, fraternité. Donc, le monde aspire à une vie de fraternité, d'amour, d'égalité, d'échange, où chacun voudra que l'autre soit à l'aise. La sécurité sociale, c'est ça. Il y a des gens qui, depuis qu'ils ont fini leurs études, ils sont ingénieurs ou bien cadres quelque part, eh bien, ils payent leur mutuelle, mais l'argent qu'ils payent finit par servir à financer ceux qui sont RMistes ou bien RSA, quel que soit le terme. Il y a une sorte de répartition. En quelque sorte, le monde aspire à ce que tout le monde soit heureux, mange comme il faut, et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Mais maintenant, même si on ne croit pas en Dieu, et qu'on voit des gens qui vivent ce à quoi tout humain, toute société aspire, on se dit, ils ont trouvé la clé. Je vais m'approcher. Et quand ils s'approchent, on dit, oui, effectivement, la clé, c'est Jésus-Christ. Yeshua, le Fils de Dieu, il est venu changer les cœurs des humains. Et si les cœurs des humains changent, effectivement, ils peuvent vivre ce à quoi aspirent tous les humains. Ils peuvent vivre la paix, l'égalité, la fraternité. Ils peuvent vivre l'unité. Ils peuvent vivre la solidarité. Librement, sans forcer, sans qu'il y ait une loi. D'eux-mêmes, parce que leur cœur a changé. C'est ça la différence entre les États, entre les bonnes volontés de certains philosophes et Dieu. C'est que les philosophes, les États ne peuvent pas changer le cœur. Ils ne peuvent qu'imposer des lois pour produire une sorte d'égalité, une sorte de sécurité d'ensemble. Mais l'homme étant mauvais dans son cœur, malgré les lois, il trouve toujours des moyens pour contourner. Mais Dieu, lui, il change le cœur. Quand le cœur est changé, sans forcer, la personne ne vole plus. Alors que on a vu aux États-Unis, par exemple, dans les casinos, il y a toutes sortes de caméras. Et les employés eux-mêmes savent qu'il y a toutes sortes de caméras. Mais on a vu combien de documentaires où ces employés-là, ils vont se mettre devant une caméra et voler comme ça pour que la caméra ne filme pas. Alors qu'il y a une, sans savoir qu'il y a une autre à droite. Pourquoi ces gens-là volent? Parce que leur cœur est mauvais. Malgré le fait qu'ils savent qu'il y a toutes sortes de caméras, ils aspirent toujours à déjouer ces caméras-là et voler. Parce que le cœur n'est pas bon. Alors que quelqu'un dont le cœur est changé, même s'il n'y a pas de caméra. On a vu que beaucoup de gens, il va faire des achats, on lui donne, comme dernièrement ça nous est arrivé, on nous donne en surplus, et puis on est reparti à la boutique remettre. Il dit, c'est bon, comment vous pouvez remettre? Ben oui, ce n'est pas à nous. On remet. Et on nous a donné des bons gratuits. Donc, finalement, vous savez, là, on dit le crime ne paye pas, c'est vrai. Mais c'est la bonté qui paye. Ça finit par payer en échange, on nous a donné les bonnes choses, bien aimé. C'est ça. Parce que le cœur est changé. Alors que tu peux voler sans qu'on t'attrape, tu n'arrives pas à voler. Parce que ton cœur ne peut plus voler. Ton cœur est bon. C'est ce que Jésus est venu faire. Bien-aimé, le monde aspire à ce que Acte 2:42 décrit. Les humains aspirent à ça. Comment ils vont changer en nous voyant vivre comme cela? Mais nous, on est là tout le temps. Oh, je veux parler le dimanche. On m'a mal parlé le vendredi. Oh, le frère et la sœur, ils ont discuté sur moi. On m'a appris. Comme le loup et l'agneau, quoi. On me l'a dit. Le loup qui dit, on me l'a dit. Oh, qui te l'a dit? Bien-aimé, soyons des agneaux, ne soyons pas des loups. On va inventer toutes sortes, on me l'a dit. Je sens, j'ai rêvé qu'il m'a mal regardé. Oh, mais tu as rêvé qu'il a mal regardé. Est-ce que si tu rêves un gâteau, tu vas nous amener un gâteau ici? Maintenant, tu rêves qu'on t'a mal regardé, ça devient un problème. Quand tu rêves aussi les gâteaux, il faut nous amener les gâteaux, bien-aimés. Revenons à la communion fraternelle. Il faut qu'on meure à nous-mêmes. C'est très, très important. Le problème, c'est qu'on reproche trop des choses aux autres. Il faut qu'on accepte les autres tels qu'ils sont et qu'on prie ensemble pour qu'ensemble nous changions. C'est ça, la vérité. La Bible dit dans Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. C'est ça l'amour. Et le Seigneur a dit, s'il faut aimer seulement ceux qui nous aiment, où est la différence avec les voleurs? Ils s'aiment entre eux. Où est la différence? On a vu le film de Nicky Cruz. Il était prêt à tuer pour aider son ami, pour sauver son ami, mais c'était des brigands. Donc même les voleurs s'aiment entre eux. La différence entre un chrétien et un homme normal, c'est que le chrétien doit aimer ses ennemis, aimer ceux qui lui font du mal. C'est ça la différence, parce qu'il a reçu un cœur à cela, le cœur de Dieu, qui aime les mauvais et les bons, et qui veut les sauver tous. Nous devons accepter de mourir à nous-mêmes, bien-aimés. L'amour supporte tout. J'ai parlé avec un frère hier, enfin un frère, quelqu'un qui est un sympathisant plutôt. Oh, mais je veux venir à l'église, mais bon, il y a quelques frères. Moi, j'ai dit, mais mon cher, aujourd'hui, si le doigt commençait à dire, je veux bien rester dans ce corps, mais il y a le doigt qui est voisin là qui m'énerve. Mais oui, bon, on va te dire, mais bon, dans ce cas, détache-toi. Et quand tu vas te détacher, comment tu vas vivre tout seul en tant que doigt? Détache-toi alors, puisque le doigt voisin, il te dérange. Détache-toi. Moi, je dis, frère, quand on profite des autres, il n'y a pas de problème. Dès qu'on reçoit les embêtements des autres, on crie. C'est pas bon. Job a dit, j'ai reçu de bonnes choses de Dieu, que j'accepte aussi les mauvaises. Autrement, j'aurais dû refuser les bonnes aussi. Voilà. Quand les frères ont prié pour toi, pas de problème. Quand ils t'ont soutenu dans la prière, pas de problème. Quand ils t'ont visité, pas de problème. Le jour où ils ne te visitent pas, c'est un problème. Et l'homme oublie beaucoup les bienfaits. C'est ça qui est grave, quoi. Il oublie très vite les bienfaits. Il a la mémoire courte, comme on dit. Il ne compte que les mauvaises choses ou ses propres exploits à lui. C'est pas bon, bien-aimé. N'oublions pas les bienfaits. N'oublions pas ce que les autres ont fait de bien pour nous. Parfois même, il y a des gens qui t'ont ramassé. Tu étais païen, mauvais, escroc. Ils t'ont parlé de Dieu. Et tu arrives dans l'église. C'est maintenant toi qui deviens le meilleur chrétien de l'église. Non, bien-aimé. N'oublions pas notre passé. Soyons humbles. Si Dieu nous a pardonné, il peut pardonner aussi aux autres. L'amour supporte tout. Dans une famille, il y a des moments où on vient et on trouve la maman en colère. Mais est-ce qu'on ne mange pas la nourriture? On mange. Donc on profite de la nourriture, mais acceptons aussi la colère. On veut seulement manger la nourriture, on ne veut pas accepter la colère. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, c'est de l'égoïsme que de prendre que ce qui est bon et de polémiquer pour ce qui ne marche pas. Job nous donne le bon conseil. Il fallait dans ce cas refuser aussi les bonnes choses. Si on refuse de subir les mauvaises choses qui viennent des autres, on aurait dû aussi refuser les bonnes qui venaient de ces gens-là. Revenons, bien-aimé, à la vérité. Vous savez, Dieu tient à cette communion fraternelle parce que c'est ça sa gloire. Parce que qu'est-ce que Dieu va dire devant le diable? Regarde mes enfants. Le diable va dire quoi? Oh, quels enfants! Ils ne s'aiment pas du tout. Ils se disputent tout le temps. Dieu est bloqué. L'honneur de Dieu, c'est de voir ses enfants unis ensemble. Oh, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer. C'est ça l'honneur de Dieu. Il dit, voilà, je fais un avec eux. Je fais un avec eux. C'est ça la puissance de Dieu. Quand la communion fraternelle se vit réellement. N'oublions pas cela, bien-aimé. Ne confondons pas les choses. Dieu ne cherche pas à faire de nous des Superman individuels et indépendants les uns des autres, autonomes. Non, il veut faire de nous des gens qui dépendent les uns des autres.
C'est comme ça, bien-aimé. Refuser cette dépendance mutuelle, ça crée l'égoïsme et puis la mort. Tu sors du corps. Tu sors du corps. Il y en a qui ne supportent pas non plus d'autorité, qui ne supportent pas d'avoir des pasteurs, qui ne supportent pas de... Mais bien-aimé, tu ne peux pas échapper à ça, parce que c'est l'ordre de Dieu. Parce que si tu refuses une autorité, tu refuseras aussi Dieu. Parce que Dieu est aussi une autorité. C'est clair. Il y en a qui ne supportent pas les églises, ils ne supportent pas la communion fraternelle, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un chef. Oh, mais où est le mal s'il y a un chef? Tu acceptes bien qu'il y a le président dans le pays. Dans ton entreprise, il n'y a pas un chef. Dans une famille, il n'y a pas un père. Donc il y en a qui ont un orgueil humain d'être être le premier partout. Et quand ils arrivent quelque part, ils voient, tiens, oh, on a servi le pasteur le premier. Oh, pour qui il se prend? Mais c'est toi pour qui tu te prends. Parce que la Bible dit, celui qui cherche à être élevé sera abaissé. Calme-toi et cherche Dieu. Amen. C'est ça, bien-aimé. Ne soyons pas jaloux. Oh, mais tiens, quand l'autre est venu, la salle a bougé. Ce n'est pas ton problème. Toi, concentre-toi sur Dieu. Il y en a qui sont... Ah, oh, mais les gens sont idolâtres. Quand tel est venu, les choses sont... Oh, mon frère, toi ne sois pas idolâtre. Amen. Si tu trouves que les autres sont idolâtres, toi ne le sois pas. À fur et à mesure que toi, tu ne le seras pas, tu influenceras beaucoup de gens autour de toi qui vont de moins en moins l'être. Voilà. Mais comment, parfois, c'est des réactions de jalousie. C'est ça, quoi, bien-aimé. On n'est pas d'accord avec l'idolâtrie. Mais ta réaction vient d'où? Cherche. Est-ce que ce n'est pas la jalousie aussi, peut-être? Parce que souvent, certains réagissent comme ça, mais quand ça se fait chez eux, dans leur vie, pas de problème. On peut les idolâtrer eux, mais pas les autres. Non, bien-aimé. Nous, nous voulons qu'on idolâtre personne. Alors, quand tu vois qu'il y a idolâtrie, eh bien, prie le Seigneur que ça cesse. Et toi, ne sois pas idolâtre. Ton exemple, les gens suivent. Dieu va faire, parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Quand Dieu verra que toi, tu n'es pas idolâtre, il fera en sorte que beaucoup de gens te regardent et soient enseignés par toi, par ton comportement, et ils suivront, ils diront, mais tiens, le frère, il se débrouille bien sans être idolâtre, ah, et en plus, il grandit spirituellement, en plus, Dieu s'occupe de lui, mais moi aussi, je ne veux plus être idolâtre. Voilà, bien-aimé. Mais n'entrons pas dans des polémiques qui, finalement, vont diviser pour rien du tout, bien-aimé. Vous savez, un enfant qui rentre de l'école, il n'a pas le temps de savoir est-ce que ses parents se sont disputés. Il veut voir la nourriture à table. C'est tout. Nous, quand on rentrait de l'école, on ne sait même pas ce qui s'est passé, dans quel marché maman est partie faire des courses. Ce n'est pas notre problème. Nous, on veut voir la nourriture à table. Maman, où est la nourriture? Ah oui, mais je n'ai pas encore fini. Ah, oh, tu commences à pleurer. Tout dépend de l'âge. Mais bon, c'est vrai. Que... Mais, où c'est la colère? Où c'est... Bien aimé, on ne sait pas où elle a fait des courses. Notre problème, c'est de trouver la nourriture. Mais imagine maintenant deux parents qui se disputent pendant que les enfants sont à l'école. Après, chacun dise, bon, si c'est comme ça, comme on n'est pas unis, on ne prépare rien, moi je m'en vais, l'autre s'en va. Bien-aimé, c'est la mort pour les enfants. Alors, mettez-vous à la place de Dieu. Nous décidons que, puisque le frère, il est trop colérique, la sœur, elle est ceci, moi, je ne veux pas au culte, l'autre ne veut pas. Mais Dieu se retrouve là, il n'y a pas d'équipe. Mais comment je vais jouer mon match, bien-aimé? C'est honteux. Pour tout ce que Dieu a fait pour nous, ce n'est pas bon. C'est de la méchanceté et de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. En prenant prétexte sur les autres, tu n'adores pas ton Dieu, tu n'élèves pas ton Seigneur, tu ne lui rends pas gloire, tu ne veux pas mourir à toi-même pour que Dieu soit glorifié. Tu veux avoir raison, tu veux tellement avoir raison que tu es prêt à détruire l'équipe du Seigneur parce que toi, tu dois avoir raison. Les gens doivent connaître que tu as raison. C'est toi qui devais prêcher, c'est toi qui devais chanter, c'est toi qui devais avoir tel poste, c'est toi qu'on devait regarder. Tellement tu veux avoir raison, tu es prêt à détruire parce que tu veux avoir raison. Et Dieu et son équipe, qu'est-ce que tu en fais? Dieu, c'est l'adoration. Il a besoin de l'adoration, pas pour exister, mais c'est ça qui fait sa joie. Il a besoin de la communion de ses enfants. C'est ça qui fait sa joie. Toi, tu ne tiens pas compte de ça, tu ne tiens compte que de toi. Ce n'est pas bon. Bien-aimé. Tenons compte de Dieu. Imaginez cet enfant-là qui rentre et sa mère dit, ton père m'a énervé, je n'ai pas préparé. Oh, bien-aimé. Comment cet enfant va comprendre les choses? Et c'est ce que nous faisons à Dieu. Il m'a énervé, moi je ne parle pas. Je ne chante pas. Quand j'irai au culte, ils verront, je ne vais parler à personne. Je serai dans mon coin.
Bien-aimé, un jour dans ton coin, là, un démon va t'étrangler. Dans ton coin, personne n'entend. Tu cries, personne n'entend. Puisque chacun est concentré sur Dieu, bien-aimé. Je vais dans mon coin. Oh, quel coin alors qu'il y a des gens, bien-aimé? Non, je suis contre ça. C'est l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Dieu qui nous a fait tant de bien. Et on va le sacrifier à cause des humains qui sont mauvais. C'est pas bon.
On dit, bon, d'accord, ça ne va pas. Bon, les anges sont mauvais. Moi, je vais aller adorer l'Éternel. Parce qu'il a fait pour moi de grandes choses. Que son nom soit glorifié. Voilà, je prends sur moi. J'accepte d'être négligé, mais l'Éternel doit être élevé.
C'est ça, bien-aimé. On ne dit pas qu'on fasse ça pour l'Église ou pour un pasteur. On dit qu'on fasse ça pour Dieu. Qu'on soit une équipe. Et Dieu va trier lui-même, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons, maintenant je reviens, sur le fond, vraiment, de ce verset-là, marchons dans la lumière et nous serons mutuellement en communion. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les 2 ans passés, je me suis rendu compte qu'on les a passés à régler les problèmes des humains. On m'a regardé mal, on m'a fait ceci. Et on n'a pas travaillé pour l'œuvre de Dieu. J'ai dit, Seigneur, on nous a retardés. Et ce verset-là répond à ce souci-là. Ce verset dit, au lieu de vous tracasser à vouloir fonder une famille hyper égalitaire par vos forces, occupez-vous de marcher dans la lumière. Ceux qui sont dans la lumière, ils seront mutuellement en communion. Et ceux qui ne sont pas dans la lumière, ils seront dispersés. Bien-aimés. Si nous marchons dans la lumière, puisque Dieu est dans la lumière, ceux qui sont dans la lumière et qui marchent avec lui, sans le vouloir, ils seront mutuellement en communion. 1 Jean 1, 7. Le Seigneur m'a répondu par ce verset-là. Au lieu de vous tracasser à vouloir régler les problèmes, vous savez, un jour, je suis allé dans le bureau, problème. Bon, le problème, c'est quoi? Bon, j'avais, un jour, je suis passé, la sœur ne m'a pas salué. La sœur dit maintenant au frère, mais moi, c'est parce que quand un jour, j'étais passé, j'avais l'impression que tu ne m'avais pas salué. Oh! Donc finalement on arrive, l'autre avait pensé, oh ils n'ont pas de problème, allez bonjour, on s'embrasse, moi je dis voilà. Tout, alors que le temps où je pouvais aller évangéliser à gauche, je n'ai pas fait ça, bien aimé, j'ai dit, là, j'ai fait le résumé de tout ça, j'ai dit, on m'a eu, mais on ne m'aura plus au nom de Jésus-Christ. Maintenant si tu viens, ben, on ne m'a pas salué, bien aimé, accepte qu'on ne te salue pas, je t'accorde 5 minutes seulement, meurs, mais que Dieu soit élevé. Meurs, que Dieu soit élevé. Les histoires de vouloir, bon là, on fait une réunion, bon, on va continuer. On est là à réunir les chrétiens qui connaissent la parole depuis longtemps. Bon, même parfois ça ne finit pas. Bon, on va continuer demain. Ah, mais demande seulement pardon. C'est tout. Demande pardon. Humilie-toi. Cherchons l'intérêt de Dieu. Mais ça ne finit pas, on réunit des chrétiens. J'ai dit, on ne mourra pas. J'ai dit au pasteur David, j'accorde 30 minutes au maximum pour te faire comprendre que tu dois mourir à toi-même. Après, si tu ne comprends pas, marchons dans la lumière comme lui-même, il est dans la lumière. Ceux qui sont de la lumière seront mutuellement en communion. On vient te dire, un frère a fait ceci. Bon, je vais aller vérifier auprès du frère lui-même, dans la lumière, dans la vérité. Frère, il paraît que tu as fait. Là, il va t'expliquer, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Bien-aimé, je suis étonné de la facilité que certains, d'ailleurs la plupart, ont d'accepter la destruction. Tu vas faire 5 ans, 6 ans, 3 ans, 4 ans avec quelqu'un, que dans des bonnes choses. Mais un seul jour, on lui fait un coup de fil. On lui dit, tiens, le pasteur, il paraît qu'il fait ceci, cela. La personne, au lieu d'aller
Donc, vous avez de bons rapports, il ne va même pas chercher à te voir. Il va aller discuter avec quelqu'un d'autre. Et avec quelqu'un, alors que vous n'avez jamais eu aucun problème. C'est parce que quelque part, l'homme se dit, un jour lui aussi tombera. Un jour un tel tombera. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Soyons fidèles dans nos rapports. Tu n'as jamais eu de problème avec quelqu'un. Quand on vient l'accuser, sois fidèle dans cette relation-là. Dis, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Ce que tu viens de me dire, là, j'irai vérifier. Voilà. Mais non, facilement, tu n'as jamais eu de problème avec quelqu'un. On vient l'accuser. Au lieu de dire, stop, j'ai entendu, je dois honorer ma relation, je dois être fidèle. Parce que la construction, ce n'est pas facile, bien-aimé. La construction, c'est difficile, construire des relations. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire. Un jour, on me parlait d'une sœur qui n'était pas encore baptisée, mais qui venait régulièrement à l'église. Et il y a des gens qui le connaissaient d'une autre manière, et qui était venu à l'église, ils m'ont dit, et à propos de telle sœur, quelle est sa position? Moi, j'ai dit, c'est vrai qu'elle n'est pas encore baptisée, mais le fait qu'elle vienne tous les jours, ça fait plus de 3 ans, veut qu'elle vienne tous les dimanches, je crois qu'elle aime Dieu. Parce que les prédications que je lance, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas supporter. Tu vas fuir. Donc là, si elle tient, donc il y a un attachement à Dieu. Bien-aimé, quelqu'un comme ça, vous avez fait 5 ans, 6 ans, donc si la personne est toujours là, elle t'a supporté, vous vous êtes supporté, et puis vient venir juste un jour, on vous dit des choses, pas d'explication, pas de recherche, pas de fidélité dans cette relation, vous cassez ça facilement comme ça. Bien-aimé, ne cassons pas nos relations facilement. Pour casser une relation, il faut faire ce qu'il faut. Faire la procédure biblique. Aller vérifier, voir, prendre des témoins, tout ça, que ça soit clair. Je ne dis pas qu'on doit demeurer unis à la mort, non. Lorsque quelqu'un dévie, il faut s'éloigner de cette personne. Mais pour voir qu'il a dévié, il faut faire les mêmes... Souvenez-vous des efforts que vous aviez fait autrefois pour travailler, pour construire votre relation. Alors pour la détruire, il faut faire les mêmes efforts, sinon plus, pour vérifier... Travailler, prier, intercéder. Bien-aimé, nous sommes... Ça me dépasse de voir comment les gens, facilement, ils se laissent influencer. Alors, je me suis dit, sûrement, quand certains voient d'autres juste, ça les dérange un peu, ils se disent, un jour aussi, ils tomberont. Et quand on apprend qu'il est tombé, on est content. Au lieu de se dire, tiens, non, je ne crois pas. Parce que jusque-là, je ne l'ai jamais vu faire telle chose. Jusque-là, non, on se dit, tiens, ça lui est arrivé aussi, comme ça m'était arrivé. Non, ce n'est pas bon, bien-aimé. Soyons des gens qui ne laissons pas les relations se détruire facilement. Le diable est malin et rusé. Il va venir détruire facilement les choses. Nous, nous devons tenir bon, bien-aimé. Nous devons dire, il y a quelque chose qui fait la différence entre le chrétien et le païen, c'est que le chrétien, c'est dans la durée. La foi, c'est dans la durée. Vous savez, les païens, quand une équipe, ils vont supporter Marseille. Marseille va faire 4 défaites, 5e match. Les mêmes supporters vont huer l'équipe. Il n'y a pas la fidélité. Ce n'est pas dans la durée. Ils vont siffler. On a vu même la Marseillaise siffler. Mais il suffit que la même équipe remporte la coupe, ça change. Tout le monde achète le maillot. Ça, c'est les humains. Mais le chrétien, il doit être constant. Parce qu'il est animé de l'Esprit de Dieu. Il est animé de l'amour de Dieu. Il doit être constant. Si j'aimais le frère hier, je dois l'aimer aujourd'hui aussi. Et je dois l'aimer demain. Et je ne dois pas autoriser que le diable nous détruise facilement. Bien-aimés, levons-nous, bien-aimés, et ne laissons pas l'ennemi détruire l'œuvre de Dieu facilement. Et quand je parle de l'œuvre de Dieu, je ne parle pas de cette église. Je parle de l'œuvre de Dieu partout. Partout où tu es, ne laisse pas l'ennemi détruire l'œuvre de Dieu facilement. Quand quelqu'un vient te parler, bien-aimé, on n'est pas contre que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'on le dise, il faut le dire. Mais toujours veillez à ce que la personne le dise dans la construction. Le but, c'est construire. Parce que les parents là qui discutent, après la maman dit, bon, puisque tu m'as énervé, je ne prépare pas. Elle détruit. Donc, mais si elle dit, bon, tu m'as énervé. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais, par fidélité, dans un souci de construction, je vais préparer pour les enfants, on discutera après. Là, c'est la construction. La chose n'a pas été étouffée, à tort, mais c'est étouffé pour une raison de construction, pour que ça soit ressuscité. Il faut que l'œuvre de Dieu avance. Même quand on a des vraies choses à nous reprocher, on n'en dit ce qu'on vient pas. Il faut que ça soit toujours dans un esprit d'avancement. On le dit, on dénonce le mal, mais que le fond soit, il faut que ça avance. Mais quand quelqu'un dit, oh, il a fait ceci. Moi, les églises, vraiment, finalement, je vais rester chez moi, quoi. Là, c'est la destruction. Mais quand quelqu'un vient te dire, on a appris ça, et on va aller voir le frère, en discuter, et avant d'y aller, on prie, là, c'est la construction. On veut la vérité dans la construction, les reproches dans la construction, en se souciant de l'œuvre de Dieu. On ne peut pas, moi-même, quand je ne connais pas un serviteur de Dieu, on dit qu'il est mauvais. Moi, je ne peux pas répéter comme ça, je dis qu'il est mauvais. Je veux dire, on m'a dit, parce que je refuse de prendre quelque chose alors que moi, je n'ai pas vérifié. On m'a dit ceci. Je ne peux pas critiquer un pasteur, je ne le connais pas, puisque juste quelqu'un m'a dit. Je dirais non, on m'a dit. Voilà. Je n'ai pas vérifié. Il faut se soucier de l'œuvre de Dieu, bien-aimé. C'est très important, quel que soit l'endroit. Parce que sachez que le diable cherchera à casser l'unité, casser le lien entre les chrétiens. N'acceptons pas, d'ailleurs c'est écrit dans les épîtres, n'accepte pas l'accusation sur un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. N'acceptons pas comme ça facilement la destruction. Luttons, bien-aimés, pour que la construction demeure. Mais soyons libres de dire la vérité, de dénoncer les mauvaises choses. Mais toujours dans la logique de construire. Toujours dans la logique, on est ensemble, on construit. On dénonce les mauvaises choses, on reste ensemble pour construire, pour éliminer ces choses-là, pour purifier. Jusqu'à ce que Dieu te dise, quitte ce groupe, va dans un autre groupe. Voilà, parce que Dieu ne peut pas te dire, quitte ce groupe, toi tu es trop pur, tu dois rester seul, en ermite. Comme ça tu ne... Non, bien-aimé, c'est faux. Non. Il te dira, quitte ce groupe pour aller dans une autre famille. C'est ça, bien-aimé. Nous devons marcher dans la lumière, vérité, transparence. Et là, nous serons forcément en communion avec ceux qui marchent aussi dans la vérité, dans la lumière, dans la transparence. Ceux qui refuseront le style de Dieu, d'eux-mêmes, ils seront écartés. On n'aura même pas d'effort à faire. Il est écrit dans Psaume au chapitre 1er, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. On n'aura pas d'effort à faire. En marchant dans la lumière, dans la transparence, eh bien, ceux qui ne supporteront pas cette lumière-là. La lumière, c'est quoi? C'est toute la parole de Dieu. C'est toute la vérité. On marche selon cela. La lumière, c'est quoi? C'est la transparence. On ne fait pas les choses dans les flous. Bien, mais quand quelqu'un veut t'entraîner dans les flous, il y a ça, mais ne dis pas... Et puis, tu dis, mais non, si tu penses qu'il y a ça, il faut... Soit tu avales, pas de problème. Mais si c'est un blocage pour toi, il faut qu'on élucide l'affaire. Voilà. Bien aimé. N'acceptons pas les flous. Soyons transparents. C'est très important. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous serons en communion mutuelle, bien aimé. Et les gens qui ne voudront pas de cette lumière, de la totale vérité de la parole, qui ne voudront pas de la transparence, eh bien, d'eux-mêmes, ils ne résisteront pas à cette façon de vivre-là. On n'aura pas besoin de les exclure. D'eux-mêmes, ils ne supporteront pas bien. Mais Dieu nous donne la clé. Ne passons pas trop de temps à vouloir nous unifier par la force, par la chair. On a beau organiser les repas, mais si nous ne marchons pas dans la lumière, il n'y aura pas la vraie unité. Nous devons marcher dans la lumière, dans la vérité. L'unité se fera avec les vrais enfants de Dieu parce qu'ils auront le même esprit de lumière et de vérité. C'est ça, bien-aimé. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes, mais tant qu'on marche dans la transparence, le problème a été dit et on laisse Dieu toucher nos cœurs, on sera toujours ensemble dans la force. Toujours dans la vérité, toujours dans la lumière, toujours dans la transparence. Et nous serons en communion mutuellement, bien-aimés. Vaut mieux dire à quelqu'un la vérité, même si ça lui fait mal, mais s'il est de la vérité, il finira par accepter ça et vous allez vous retrouver toujours. Toujours. Il y a des choses, pour les accepter, parfois ça prend du temps. Et nous aussi qui disons la vérité, soyons prêts à supporter que ça prenne du temps pour que l'autre l'accepte. C'est ça, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas simples. La personne était habituée à une manière et il faut maintenant la positionner sur la vérité. C'est très important, bien aimé, parce que Dieu a besoin de nous. Il a besoin qu'on sauve d'autres personnes. Ne passons pas notre temps à vouloir constituer une famille parfaite. Nous sommes des hommes imparfaits. 1 Jean nous le dit. Que celui qui n'est pas, celui qui se pense être parfait, c'est un menteur. Nous sommes imparfaits. Ne passons pas notre temps à vouloir égaliser par la chair. Passons notre temps à chercher le perfectionnement personnel et des autres. Dans ce perfectionnement-là, ça nous amènera à travailler en même temps. Pardon, à travailler en même temps, à évangéliser, à adorer, à louer, et en même temps, on sera perfectionné. Mais lorsqu'on fait comme une pause, on ne travaille plus, on est là toujours à vouloir égaliser nos relations, à les rendre parfaites, eh bien, les païens meurent. Il y a des gens qui meurent. Tout notre temps passe pour fonder une vraie famille, alors qu'on l'est automatiquement. On l'est. On est une famille, déjà. Et Dieu veut qu'on marche maintenant, on avance dans la lumière et dans la transparence, dans la vérité. Automatiquement, notre communion sera forte. Automatiquement. Passons notre temps à nous remettre en question, à nous laisser purifier par la parole, à nous laisser parfaire par la parole, au lieu de passer notre temps à vouloir à tout prix obliger qu'on soit une famille alors qu'on l'est déjà. Tout le temps des conciliabules, des palabres à gauche, à droite. Non, bien-aimé. Mettons moins de temps à ces palabres-là et mettons plus de temps à nous perfectionner dans le Saint-Esprit et dans la parole et à travailler pour le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons en profiter pour prendre la Sainte-Cène. Et si tu avais quelque chose contre quelqu'un, tu demandes pardon à Dieu dans ton cœur et tu pardonnes aussi à l'autre. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion parce que lui, il est dans la lumière.
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé.
Nous sanctifions ce pain et ce fruit de la vigne, Seigneur.
Je trouve en
merci Seigneur de nous aider à marcher, à vivre ensemble.
Pardon par la foi,
son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi.
Jésus est ma justice.
Jésus-Christ est ma justice. Il est
coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.
Oh, son sang,
son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.
Jésus en paie ma dette.
Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité.
Jésus,
tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité.
Jésus-Christ est ma sagesse.
Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Jésus est ma justice.
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.
Oh,
son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.
Ton nom est la solution, Jésus.
Solution, Jésus.
Oh, ton nom, Jésus.
Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution.
Ton nom.
Ton nom est la solution, Jésus.
Ton nom est la solution.
Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution,
Jésus.
Oh, ton nom, Jésus.
Ton nom est la solution.
Ton nom.
Ton nom est la solution.
Ton nom est la solution. Jésus. Ton nom est la solution. Jésus.
Ton nom est la délivrance. Alléluia.
Ton nom est la délivrance. Jésus. Ton nom est la délivrance.
Jésus.
Oh, ton nom, Jésus.
Ton nom est la délivrance.
Ton nom.
Ton nom est la délivrance. délivrance. Ton nom est la délivrance, Jésus.
Ton nom est la guérison. Amen.
Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom est la guérison,
Jésus.
Oh, ton nom, Jésus.
Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison. Ton nom est la guérison, Jésus.
Ton nom est la solution. Alléluia.
Ton nom est la solution.
Jésus.
Ton nom est la solution. Jésus.
Oh, ton nom, Jésus.
Ton nom est la solution.
Ton nom.
Jésus, ton nom est la solution.
Ton nom.
Ton nom est la solution.
Ton nom est la solution.
Jésus.
Oh Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur. Nous voulons que tu sois notre solution. Que ce ne soit pas la perfection de l'autre qui soit ma solution. Que toi sois ma solution. Que tu m'aides à faire aux autres ce que je veux qu'on me fasse. Ce que je réclame, que je le fasse moi-même, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous unisses davantage autour de ta parole, autour de la transparence et de la vérité. Que nous fassions notre choix. Notre choix, c'est toi. Que notre choix ne soit pas notre ego, nos intérêts, mais non, que notre choix soit toi, Seigneur. Élevez ton nom. Que tu sois notre priorité, Seigneur. Ô Éternel, que nous soyons attentifs à ta volonté pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, si il y a des blocages dans nos vies, des mauvais comportements qui font que les autres chutent, Seigneur, nous te demandons pardon et nous voulons que tu nous délivres, parce que c'est toi qui es la délivrance. Que tu nous délivres de la méchanceté, que tu nous délivres de la nervosité, que tu nous délivres de la critique, que tu nous délivres. Du manque de pardon, que tu nous délivres. De l'égoïsme, de l'égocentrisme. Que tu nous délivres, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, qui met les autres mal à l'aise, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait encore ce soir. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Que Dieu nous bénisse.